j'étais là, je difficile de mesurer l'impact de choses comme ça. Là.
Le problème, c'est l'espace public. Les gens n'ont pas l'habitude de voir dans l'espace public des choses qui les perturbent.
Du boue, du plaisir.
Quoi, un truc qui fait plaisir aux touristes, qui fait venir du monde, qui ravit les enfants parce qu'il fait beau et que ça nous fait de la bonne copie pour l'été.
C'est un projet magnifique, culturel, ludique et dynamique.
C'est d'abord une opération de relations publiques.
C'était donc, disons, une opération publicitaire gratuite.
Bien sûr, il y a du fric là derrière, il y a des sociétés qui ont payé, qui ont fait leur pub, etc. Il y a même des hommes politiques qui ont fait donc la publicité politique. C'est difficile de dire du mal de ça.
Tout ça, c'est normal. Ça a été tellement fort, sympathique, ludique. Donc ça, c'était magnifique. Donc c'est un grand succès, oui. Ce qui est fantastique, mais c'est le plaisir des gens. C'est extraordinaire, c'est génial, mais c'est absolument fabuleux.
Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil.
Bonsoir, bienvenue dans Alter Echo.
Alter Echoes, en fait, pour la deuxième fois, car comme vous l'aurez remarqué au générique, on va se replonger dans les vaches, les vaches qui ont occupé l'espace public cet été à Bruxelles. Et on s'était rendu compte lors de la première émission, en interviewant notamment les chevins de l'urbanisme de la ville de Bruxelles, Henri Simons, mais aussi un artiste comme Jacques Charlier, les organisateurs de l'événement ainsi que la société Securis et quelques journalistes qui avaient relayé cette opération. On s'était donc rendu compte que un petit peu tout le monde en avait profité de manière gratuite. Ça ne coûte rien à personne, ça rapporte gros à tout le monde. Et donc on s'était dit qu'il y avait matière à creuser un petit peu plus loin le mécanisme de genre d'opération.
Et voilà, c'est le but de cette deuxième vache d'Alter Echoes.
Voilà donc la fin de ce merveilleux cercle vertueux, la clôture de l'événement. C'était la vente aux enchères qui a eu lieu la semaine passée. Et on a essayé notamment au travers de quelques archives de presse de vous retracer l'ambiance merveilleuse de cette fameuse vente aux enchères, à partir notamment de la conférence de presse qui annonçait cette vente aux enchères.
Comme toutes les grandes histoires, elle commence par « Il était une fois ». Il était une fois art. Je voudrais quand même rappeler que ce sont des artistes, en herbe ou non, connus ou non reconnus, qui ont peint et qui ont décoré ces vaches. Fun, nous avons axé cette exposition sur l'accessibilité. Quoi de mieux que de donner à tout un chacun de miser un euro où tout le monde, c'est pas grand-chose, tout le monde peut jouer, l'accessibilité est donc respectée et c'était important pour nous.
N'importe qui pourra mettre une enchère en débutant à 1 euro et en montant aussi haut que possible. L'idée respecte notre objectif d'être accessible à tous et non pas élitiste. Je crois qu'il est important qu'on sache qu'il y a des propriétaires de vaches et donc des artistes, c'est quand même eux qui ont fait la plus-value créatrice de cet événement, qui a été reconnu comme plus créatif que Londres notamment.
Le cœur et l'enthousiasme que les artistes ont mis à décorer, à habiller ces vaches. Le cœur et l'enthousiasme que les propriétaires ont pris à rentrer dans cette initiative. Le cœur et l'enthousiasme que les partenaires ont pris. La ville de Bruxelles pour commencer, Rebelco, Artecom, j'en passe énormément. C'est par cœur qu'ils vont donner leur vote. C'est par coup de cœur qu'on aime une vache.
J'aurais jamais cru qu'on puisse s'attacher à une vache. Une vache.
Alors tu t'évades comme ça, toi ? Avec ton étiquette sur le mur.
Hein ? Marguerite, c'est mon passe-partout.
Je voudrais enfin terminer par remercier dans les partenaires la presse. On a eu, grâce à vous, des échos qui nous ont énormément aidés. Quand je vois le résultat de ce que la presse peut faire, qui est souvent critiqué, vous faites votre métier, moi j'aimerais au nom d'Artenco vous remercier parce que vous avez été un relais fantastique.
Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Eh bien, les vaches sont à vous.
Alors, on va la choisir, cette vache, parce que moi, j'y connais rien.
Fais-moi confiance, va. Ah, voyons. Attends. Eh bien, tiens, la voilà, hein. Pas d'hésitation pour celle-là, je te répondais comme de moi-même. Ça, c'est de la vache.
Véritable heure de gloire hier pour les vaches de l'exposition Arts & Cause à Bruxelles.
Après avoir égayé les rues de Bruxelles durant plusieurs semaines, certaines vaches de l'exposition Arts & Cause ont été vendues aux enchères pour la bagatelle de 460 000 euros.
Hier soir marquait le début de la grande transhumance pour 32 vaches bruxelloises. Fin de l'été, troupeaux dispersés, les bovidés se cherchaient une nouvelle étable. Un théâtre fait office de marché couvert, mais les prix s'envolent.
460 800 euros en tout, dont 216 889 iront à trois organisations caritatives pour enfants malades du cancer et du sida et pour la recherche pédiatrique.
Ceci est peut-être une entreprise à caractère commercial, mais dont les retombées sont heureusement pour des œuvres caritatives.
Il y a quelques années, j'ai commencé à jouer de l'accordéon pour les vaches dans un champ à la campagne, et c'est là qu'a commencé mon amour pour les vaches. Puis j'ai fait beaucoup de photos de ces moments musicaux avec les vaches. Ensuite, je suis parti en Inde et là j'ai découvert les vaches sacrées.
Un amateur néerlandais a été jusqu'à en acquérir une dizaine d'exemplaires.
À voir leur regard, les vaches semblent inquiètes. L'homme a beau se présenter comme un industriel hollandais, il est surtout marchand d'art à Knok. J'aurais voulu tout acheter, mais il fallait en laisser un peu aux autres.
Les organisateurs, en tout cas pavoises, Nathalie Savoris.
Absolument extraordinaire. Donc vous avez vu ce soir, avec 32 vaches, on a atteint un montant de 460 000 euros. Je viens à la France par Sotheby's que Bruxelles a fait mieux que Londres. Ça, je trouve absolument extraordinaire.
Peut-il imaginer qu'il y a des personnes qui ont approché ça comme des professionnels et qui vont peut-être un peu tenir le marché de manière à ce que les vaches, dans les prochaines années, vont voir leur prix s'affermir.
Il y avait des simples choix à distribuer, c'est un peu surprenant. Vous pouvez mettre tant de sous pour une vache, mais ça peut servir à la Fondation contre le cancer de l'hôpital Bordet et à la Fondation pour l'hôpital des enfants, on n'a pas tout perdu.
Voilà, on a pu entendre Marc Sauvage, qui est donc un des personnages principaux dans l'organisation d'Arts & Cause. Est-ce que un de nos mystérieux invités, collaborateurs sur les vaches en studio, peut nous rappeler qui est ce Marc Sauvage ?
C'est Marc-Antoine Sauvage et c'est le directeur de Créaction. Créaction, c'est une société d'organisation d'events. C'est une société, ça fait partie peut-être un petit peu des retombées qui sont incalculables et inchiffrables dans l'opération Arts & Cause. C'est quelles sont les retombées pour un certain nombre de sociétés, notamment parmi les sociétés qui ont organisé, donc Créaction, dont on a appris récemment qu'ils viennent de décrocher, par exemple, l'organisation de la fête de l'Iris à partir de l'année prochaine. Et on peut imaginer que ça fait partie un petit peu de ces retombées. Mais il se trouve qu'effectivement, la presse a repris en grande partie ce discours jusqu'à la toute dernière ligne droite de Arts & Cause. On l'avait déjà entendu dans la précédente émission. En studio, on a quelques personnes qui ont collaboré à un journal qui, lui, a été critique et qui s'est même focalisé sur Arts & Cause. Et ce journal s'appelait Fart & Cause.
C'est le seul, en fait, où on a pu avoir une analyse un petit peu plus critique, un petit peu plus juste de ce que sont ces vaches, de tout le phénomène que ces vaches recouvrent. Donc, le journal s'appelle Fart & Cause. Bonjour à vous.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça veut dire, Fart & Cause ?
Fart & Company, co accent S.
Et Fart ?
Tu connais l'expression arty-farty, où l'art contemporain me fait péter.
Oui, parce que à l'origine, c'est d'abord peut-être une réaction d'artiste, même si, la critique de l'opération vendue comme culturelle a été rapidement dépassée par les enjeux économico-politiques de cette opération-là. Donc, voilà, à la base, on a une critique pour dire, ce n'est pas de l'art, ça nous est vendu comme de l'art et de la culture. Et c'est très inquiétant parce que ça veut dire que ces choses-là vont se reproduire et quelle sera la place des artistes à l'avenir. Mais au-delà, en fait, cette publicité, cette occupation de l'espace public, la question c'était qui sert-elle et quel type d'intérêt au-delà de l'agence de publicité qui fait elle-même sa propre publicité. On avait un des principaux sponsors qui est une entreprise immobilière, il y a la ville de Bruxelles. Sur la question de l'art, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dit que c'était de l'art. Après, les gens se sont défendus disant que c'était pas de l'art. Et à la fin, on a quand même un galeriste de Knock qui achète la moitié du cheptel. Alors ça, c'est aussi intéressant. Ça veut dire qu'ils ont quasiment la capacité à produire des œuvres d'art. Cette manifestation-là.
Il y a un autre aspect assez important dans cette couverture de presse, c'est qu'au fond, les gens d'Art & Co nous expliquent qu'ils organisent simplement un événement pour embellir la ville, mais en fait, un des enjeux, comme on vient de le dire, non chiffrable de cet événement, c'était bien sûr d'assurer une visibilité à tous les sponsors.
Ah oui, si vous voulez, le gros enjeu, c'est ça, c'est que pour les gens qui organisent ce genre de choses, c'est qu'effectivement, les noms des sponsors soient le... non seulement visible dans la ville, mais surtout cité dans les articles de presse. Alors, donc, on a compté qu'il y avait eu plus de 1000 articles de presse. Ils veulent être cités, être reconnus comme des agents, disons, citoyens de la ville. Donc, se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Enfin, dissimuler leur activité commerciale, ou en tout cas, lui donner une dimension plus grande que la dimension commerciale. Et en jouant finalement avec une bonne agence de communication, on arrive effectivement à passer dans tous les journaux et ça passe comme une lettre à la poste. Quoi. Et il faut savoir que, je sais, c'est pas encore le cas ici, mais dans le monde anglo-saxon, quand on parle de vous à la télévision, vous pouvez l'inscrire dans votre compte d'entreprise, hein, en disant voilà, on est passé 10 minutes, ça représente, au tarif de la publicité, ça représente tant, donc on peut le mettre en positif dans le compte d'entreprise.
On est arrivé même à un stade où les critiques qu'il y a eu contre ces vaches, ou en tout cas les actions, ont été récupérées même par les organisateurs, par les sponsors. On pense par exemple à Securis qui du coup lui a permis de donner une plus grande visibilité à l'activité, aux actions de cette entreprise.
Oui, en fait, pour toute façon, tous ces gens, tous ces agents qui sont... notamment la compagnie immobilière qui est Robelco et Securis, c'est des gens qui travaillent déjà ensemble, hein. C'est des gens qui travaillent déjà ensemble et donc qui ont des visées sur la ville de développement urbain qui passent effectivement par montrer qu'ils peuvent assurer mieux la sécurité, mais pas pour n'importe quel type d'activité, évidemment pour des activités de bureau. Ils montrent leur capacité d'organisation par rapport à la ville. Et ils montrent par défaut aussi l'incapacité des politiques à proposer un autre modèle de développement urbain. C'est ça qui est intéressant, de voir la ville acceptant cette opération publicitaire et en même temps reprenant le discours qu'on lui a fourni clé en main, qui est de dire ça crée du lien social, c'est un événement citoyen, etc., etc. Et se rattrapant à la dernière limite à toutes les perches qu'on a tendues en disant voilà, les enchères, c'est beaucoup d'argent, mais c'est pour la charité.
Du coup, dans cette espèce d'état d'esprit, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, la critique est quasiment malvenue en fait. C'est très déplacé dans le discours ambiant qu'il y a eu, dominant des 1000 articles quasiment qui disent tous la même chose. Mais finalement,
effectivement, on a entendu sur toute l'histoire de Art & Cause un changement de discours, c'est-à-dire qu'au début ça s'est vraiment présenté comme de l'art et de fait le nom l'indique, et la critique petit à petit a été assimilée et totalement récupérée. Oui. Et donc on va entendre quelques extraits de nos différents entretiens avec notamment Jacques Charlier, un des artistes qui a peint une vache, Henri Simon et Nathalie Savrice de Art & Cause, et Éric Defeuille du Soir qui nous explique pourquoi ce n'est donc absolument pas intéressant de critiquer Art & Cause.
Il ne faut pas non plus chercher la petite bête à tout bout de champ. C'est un peu de la discussion de salon, même si c'est un peu de la publicité déguisée, même, je veux dire, ça ne fait vraiment de mal à personne.
Les vaches sont sûrement critiquables par rapport à ce qu'on dit, mais la focalisation sur la vache, par rapport à la focalisation de la publicité complète dans la ville, par rapport à des coups de force comme Deco, par rapport à des types qui construisent des bureaux illégaux, par rapport à du logement, par rapport...
Quand Van Coenberg fait une espèce de grande réunion au château de la Hulpe avec tous les créateurs qui sont invités, la création wallonne et tout le fourbi. Et quand Robert Collignon dit qu'il veut faire de télé une chaîne wallonne, je ne vois personne bouger, hein.
On aura tout vu, on aura tout vu, les trucs les plus fous et tout et tout. Ah, quelle drôle d'époque, plus rien ne vous choque, on est tout un peu loufoque.
Il y a tellement de choses plus utiles, plus importantes en termes de combat face à l'argent privé, que les vaches ne me paraissent pas une chose exceptionnelle.
Plus on en parle, plus on fait mousser cette affaire, plus dans tous les milieux, que ce soit les milieux bourgeois ou les milieux populaires, ils se disent, nous on aime bien ce truc-là, on trouve ça sympa.
Bien ma chérie, veux-tu que nous allions à l'exposition? Pareil qu'on voit des choses à sensation, à l'exposition.
Moi j'ai été étonné de l'énergie que certains ont dépensé par rapport à ça. Oui, c'est-à-dire l'énergie de certains artistes à aller brûler des trucs, à aller taguer, à aller arracher des bazars. Bon, je trouve que c'était quand même beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Mon discours n'est pas une espèce de discours de désenchanté qui dit il faut arrêter les frais, il faut pas que ça dure, il faut pas que ça continue. Moi, ce qui m'effraie, tu vois, c'est que j'ai l'impression de me retrouver devant un remake des années 60, et quand je lis les textes besogneux et en même temps passionnés, des gens qui réagissent par rapport à ça, je me dis, mais c'est pas vrai, c'est un remake.
Qui c'est qui est très gentil?
Très gentil.
Qui c'est qui est très méchant?
Très méchant.
Qui a tous les premiers prix?
Très gentil.
Qui roupille au dernier rang?
Très méchant.
D'autant plus que le grand public est très largement satisfait du côté ludique de l'amusement.
Ludique, ça c'est bien le mot qu'on a le plus entendu dans toutes ces rencontres. Est-ce que c'est ludique, est-ce que c'est de l'art? Je voulais juste pour la récupération signaler un petit morceau d'interview qu'on n'a pas diffusé, mais qui est celle de Eric Defay du Soir, qui explique que la vache Victorine qu'ils ont créée à l'image donc de leur supplément Victor, ils avaient même pensé eux-mêmes à la kidnapper et à organiser une conférence de presse d'Ixit à la Corse avec des kidnappeurs cagoulés. C'est-à-dire que même les enlèvements de vaches ou autres ont pu amener ce genre d'idée de marketing.
En tout cas, ce journaliste sait au moins des militants corses qu'ils ont des cagoules.
Par contre, ce qu'on ne sait pas de la petite entreprise Créaction, c'est que non seulement ils ont des retombées maintenant après le Hartung Kos qui a organisé la fête de l'Iris, mais avant ils ont décroché le contrat pour décorer toutes les plaques de nos rues avec de la publicité. Donc et aussi tout.
C'est-à-dire que eux-mêmes vendaient aux communes des plaques de rue avec des encarts publicitaires. Donc les communes à ce moment-là étaient le client de Créaction.
Voilà. Et on est réduit tous à être des clients. Tu te promènes dans la rue, ben non, c'est plus ta rue à toi, t'es client dans la rue.
Ben oui, moi j'ai envie de rebondir sur ce que disait Jacques Charlier en parlant des textes besogneux. Vraisemblablement, il a lu le journal critique Farton Cause, dont certains auteurs sont donc avec nous. Qu'est-ce que vous auriez pu répondre à Jacques Charlier sur cette capacité de travail, sur cette énergie que vous avez dépensée à élaborer un discours critique autour de cet événement?
Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a deux choses dans ce que dit Charlier. Il y a une chose qui me paraît recevable, qui est, il est effectivement dans le combat dans lequel on peut être contre Hartung Kos, ils ont une telle capacité de manipulation symbolique, de création d'événements, que c'est effectivement difficile de trouver des formes qui soit à la hauteur, évidemment, de l'énergie que Hartung Kos investit, parce que ça, l'énergie qui est investie à côté de celle que nous, on a investie, c'est beaucoup plus, beaucoup plus. Donc, ce que j'aurais envie de lui dire, oui, effectivement, il y a un remake, mais c'est peut-être pas celui qui croit, peut-être que les formes de contestation, c'est un remake des années 60, mais il y a des formes de domination qui sont aussi un remake des années 60, sauf qu'elles sont à un niveau de maturité symbolique beaucoup plus grande. Et c'est un événement comme Art & Cove qui cache des intérêts énormes par rapport à la ville, qui dissimule des acteurs majeurs de la ville en les faisant passer pour des amuseurs publics, pour le bon peuple. Ça, effectivement, que peut-être, c'est avec notre petit journal, on n'est pas de taille à lutter contre ça. Mais alors, j'attendrai d'un artiste qui a connu les années 60 et qui est quelqu'un qui connaît très bien ce genre de stratégie symbolique, qu'il mette son savoir-faire et son expérience au service plutôt de ces luttes qui sont finalement des luttes anticapitalistes, plutôt que de tenir un point de vue esthétique. Co-formel, je dirais.
Et puis il y a une ambiguïté dans son discours aussi à Jacques Charlier, en fait. C'est-à-dire que, oui, il a participé à ces vaches, mais il s'est rendu compte que finalement, c'était pas de l'art. Mais quand même, il y participe en tant qu'artiste. Tout ça est un petit peu très flou, quoi.
Mais là, ce qu'il ne comprend pas, je pense, c'est que le pouvoir, il n'est plus là. Hein. Il n'est plus dans les artistes officiels politiques. Ça existe encore, mais bon. Le pouvoir, la légitimation, il est passé au monde économique. Et des événements de ce type-là le prouvent. Et alors lui, par exemple, il a fait des canettes de Coca-Cola il n'y a pas très longtemps. En faisant des canettes de Coca-Cola, en faisant des vaches, etc., il pense faire un pied de nez à un monde qu'il déteste, qui est le monde officiel de l'art, en disant, voilà, je fais des choses triviales pour vous énerver. Sauf qu'en faisant des choses triviales, il ne s'aperçoit pas qu'il est en train de contribuer à donner la légitimité artistique à des gens qui sont beaucoup plus dangereux et qui sont beaucoup plus puissants que ses ennemis politiques et ses ennemis artistes. Donc c'est un point de vue complètement situé dans le champ artistique et qui ne voit pas que finalement les choses, elles se passent plus là. Et que même le champ économique a déjà bouffé une grande partie du champ artistique.
C'est pas une exposition artistique extraordinaire. Bien sûr, on peut toujours tout critiquer.
La seule critique qu'on peut faire dans l'analyse, c'est l'ambiguïté du nom. Art & Co. Et donc, enfin, on n'y a pas pensé au départ. C'est pas le mien, c'est ceux qui l'ont fait.
La question n'est pas là. Art & Co, le terme, effectivement, ce n'est pas de l'art, on l'a toujours dit.
On ne peut pas extraire le côté ludique, amusant d'une très grande majorité de la population. Il s'agit de faire plaisir aux gens, et ce n'est pas plus de l'art que d'aller patiner avec quelqu'un qui... C'est populaire, mais ce n'est pas de l'art, les vaches. Ça n'a pas la prétention d'une création nouvelle. C'est de la décoration avec un côté ludique de découverte de la ville. Il faut réhabiliter l'idée d'un divertissement. Ça s'appelle plaisir d'été.
Il y a eu un débat, d'abord ce débat a été extrêmement minime, je pense que vous pouvez faire une revue de presse Art & Cause, vous verrez peut-être 5 articles sur plus de 1000 qui relatent ça, donc je pense que c'est accordé beaucoup d'importance à peu de choses.
Le lecteur bruxellois ne comprendrait pas qu'une exposition qu'on lui impose dans ses rues pendant 2 mois et demi ne fasse pas l'objet d'une couverture large.
Oui, on a beaucoup débattu des frontières entre l'art et la publicité, mais il est bien évident que finalement la frontière est très mince. Hein.
Homme sans Louis, tout habillé en affiche, je promène le ridicule des mondes sans scrupule. Je suis tasse à café, bouteille Saint-Galmier, enfant tout m'habillé, tristement cravaté, de joyeuse publicité. Et tout ça pour manger, manger pour recommencer. Recommencer à marcher, et marcher pour manger. Homme sandwich, je promène mes appétits tout le long des magasins, aux vitrines indécentes. Mes souliers fatigués, tout en bâillant d'envie, se baladent sans joie en aspirant les pluies et les gadous des rues. Et tout ça pour manger, manger pour recommencer. Commencer à
marcher et marcher pour manger.
Et bien après l'air, la publicité.
Ah ben voilà, donc on va recommencer. Donc. 3, 2, 1, 0. Ben voilà, après l'art, la publicité.
Donc on va faire une page de Publicis avec l'agence Publicis, qui est une agence internationale de pub basée à Bruxelles et qui avait financé une vache en gazon.
Bonjour, je m'appelle Tanguy de Levaigne et je dirige depuis 2 ans l'agence Publicis à Bruxelles. Je trouve que la publicité amène beaucoup de vie dans une ville. Alors bien entendu, la bonne publicité est plus agréable que la mauvaise et il y a de tout, il faut tout pour faire un monde. Mais je peux vous donner un exemple. Il y a une douzaine d'années, j'ai travaillé chez Publicis Varsovie et c'était juste après la chute du mur de Berlin. Nous avons ouvert une agence à Varsovie. Ce qui m'a frappé dans toutes ces villes d'Europe centrale, c'est l'absence totale de publicité, puisque là-bas, il n'existait que de la propagande. Et donc, ce manque de publicité rendait les villes plus tristes, curieusement. L'éthique dans notre métier dépend bien entendu des entreprises qui le font. Il est exact qu'il y a toujours, comme partout, je ne vais pas dire des brebis galeuses parce que c'est un peu excessif, mais un certain nombre de personnes qui flirtent un peu avec la frontière de l'éthique. Dans notre cas, dans le cas de Publicis, nous sommes regroupés dans une association qui s'appelle l'ACC, l'Association of Communication Companies, qui regroupe la plupart des grandes agences sérieuses en Belgique et qui, de façon régulière, émet un code d'éthique pour justement baliser les frontières de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. Il va de soi que les annonceurs et les médias, enfin cette tripartite, n'a aucun intérêt à ce que notre profession soit critiquée ou que ce soit alors le législateur qui s'en occupe. En restreignant notre liberté. Donc nous essayons d'être notre propre garde-fou plutôt que de laisser le législateur légiférer unilatéralement. J'ai été contacté donc, par Art & Cause qui m'ont présenté leur opération qui m'a paru tout à fait sympathique. Et en plus, bon, ce n'était pas pour nous, à proprement parler, une opération commerciale, parce que je ne pense pas qu'on puisse attendre des retombées commerciales. Comme l'opération n'était pas excessivement coûteuse, Publicis a décidé d'offrir ce clin d'œil de mécénat, qui avait quelque part une petite dimension artistique, ça dépend un peu des vaches, et d'autre part, une finalité plutôt noble. Et nous avons même élaboré un briefing pour un team créatif, pour que la décoration de cette vache corresponde à quelque chose de vrai par rapport au positionnement de Publicis. Donc, certes, nous avons demandé à Daniel Host, un jardinier très, très, très connu, de la décorer, mais l'idée vient d'un team créatif de Publicis. L'idée étant que Publicis est l'agence qui fait pousser les marques. Et donc, l'idée d'avoir une vache entièrement en herbe et qui poussait vraiment pour devenir presque comme un bison venait de cette idée de Publicis, l'agence qui fait pousser les marques. Et je crois que ça a eu un grand succès parce que de nombreuses personnes, avec leurs enfants, le week-end, quand il fait beau, ont décidé de faire le tour de Bruxelles. Je crois que des tas de personnes n'avaient jamais fait le tour de leur ville de telle façon. Je crois que s'il n'y avait pas eu le parcours des vaches, de nombreuses familles n'auraient pas eu l'idée de faire le tour de Bruxelles. Je pars du principe qu'il faut tout pour faire un monde et que tout le monde a le droit de critiquer l'opération et de ne pas l'aimer. En tout cas, ça n'est pas mon cas. Et enfin, il faut faire preuve de tolérance. Et par contre, il y a une chose que je trouve beaucoup plus dommage, c'est le vandalisme. Je condamne totalement parce que je ne vois pas pourquoi on doit pour autant détruire le bien d'autrui. avoir une opinion, il n'y a pas de problème. Aller faire flamber une vache avenue Franklin Roosevelt, ça n'est pas normal à mon avis.
Ouais, alors, ce qui est intéressant avec Publicis, c'est ce qui vient immédiatement, c'est effectivement les vaches, c'est de la publicité et ce sont des gens qui essaient de nous faire croire que c'est triste, une ville sans publicité, que la publicité, c'est la liberté d'expression. On pense aux cigarettiers américains qui ont essayé ces derniers temps de mettre leur publicité sous la protection du 4e amendement aux États-Unis au nom de la liberté d'expression. Donc, quand on est publicitaire, on exprime quelque chose, donc on devrait pouvoir dire tout et n'importe quoi, y compris faire la publicité pour des produits toxiques et pourquoi pas mettre des vaches. Mais peut-être que cette dimension-là de la publicité, elle en cache une autre qui est plus importante. Et pour ça, je voudrais revenir sur les développements du mécénat depuis les 20 dernières années. Parce que avec le triomphe de l'idéologie néolibérale dans le champ des arts, disons, il y a eu un désengagement de l'État, de plus en plus assumé, en disant bon, finalement, c'est aussi bien si c'est le privé qui prend en charge, le financement de la culture. Et pour ça, il a fallu intéresser évidemment les entreprises à la culture. Et il y a des agences spécialisées qui se sont développées, qui se sont mises en réseau pour évidemment faire de la retape auprès des grandes sociétés pour qu'elles investissent dans du mécénat culturel. Et on ne parle plus de mécénat culturel depuis longtemps, maintenant on parle de sponsoring. Et le glissement, c'est que du pont de sponsoring, on est carrément passé à une intégration finalement de l'art et de la culture à la politique de communication des grandes entreprises.
Ça, au service des grandes entreprises.
Oui, c'est ça. Et donc, avec une production qui est de plus en plus totalement orientée en fonction des besoins de communication des entreprises, qui n'a absolument rien à voir avec le mécénat. Y a une agence de ce type-là à Bruxelles qui s'appelle la Fondation Promethea, qui est relativement petite, qui joue pas un rôle très important. Par contre, il y en a deux grosses, il y en a une en France qui s'appelle l'Admical, et il y en a surtout une depuis 20 ans en Grande-Bretagne, où c'est vraiment le laboratoire de cette nouvelle donne, qui s'appelle Art and Business.
Voilà, le nom est clair.
Oui.
On peut peut-être juste signaler pour la spécificité de Promethea, qui est une société qui est en fait essentiellement financée par de l'argent public.
Alors... En 96, en Belgique, à Bruxelles, il y a eu une grande manifestation qui visait les entreprises, qui était de présenter différentes collections d'entreprises avec leur finalité pour essayer effectivement que dans le domaine des arts plastiques, il y ait des acquisitions de la part de grandes sociétés. Et alors, vous aviez trois grands thèmes. Il y avait l'art pour se forger une image de grande société internationale, l'art au bureau pour stimuler la créativité des employés. Et l'art à l'usine pour humaniser un lieu de production. Ça, c'était Peter Stuyvesant. Il suffit de mettre des tableaux sur les chaînes de montage et bon, ça devient tout de suite un endroit humain. Et en fait, ces choses-là, elles se sont beaucoup développées parce que il y a deux ans, il y a eu le livre vert, je ne sais jamais la couleur, le livre vert de la Commission européenne sur ce qu'il appelle la responsabilité sociale des entreprises, où on essaie d'inciter les entreprises à devenir pleinement citoyennes, écologiques, féministes, antiracistes, j'en passe, c'est les meilleurs. Elles devraient devenir les principaux vecteurs des revendications de gauche. C'est ça le livre vert de l'Union européenne. Et Art on Business a répondu à ce livre vert en disant il faut pas mettre l'art dans la liste des choses dont les entreprises doivent s'occuper. Parce que ça voudrait dire que l'art c'est un problème. En fait, l'art est la solution de tout ce que j'ai dit avant. L'art est la solution pour améliorer les relations sociales dans l'entreprise. L'art est la solution pour améliorer l'écologie. L'art est la solution pour faire la promotion de l'écologie, du féminisme, de l'antiracisme. Et l'art est évidemment le moyen principal de parvenir à ce projet fabuleux de l'éducation tout au long de la vie, la formation.
On peut rappeler que le rôle de fondations comme Promethea, en fait, c'est essentiellement de gratifier, en fait, de remettre des prix à des, des sociétés privées qui opèrent du mécénat, entre guillemets, ou du sponsoring.
C'est ça.
Et donc, notamment avec de l'argent public, de finalement récompenser ceux qui se sont fait le plus d'argent eux-mêmes.
Mais et ça, c'est intéressant parce que chez, évidemment, donc,
et d'ailleurs, entre parenthèses, on a appris que Robelco est candidat, oui. En Belgique, ça s'appelle, donc, enfin, en communauté française, ça s'appelle les Caillus d'or.
Les Caillus, oui.
Et que Robelco est candidat à ce Caillus d'or du mécénat pour son opération Vache.
Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le champ artistique, il y a les démarches qui s'appellent processuelles, et là, en l'occurrence, la nouvelle œuvre, c'est pas l'œuvre en elle-même, c'est le processus de sa création, et donc le prix du mécénat, c'est ça, c'est on récompense le meilleur processus. Et quand on entend les gens parler d'Arton Cruz, comment c'est formidable, comment c'est super bien organisé, comment c'est du win-win, etc. Voilà, il y a de fortes chances qu'Arton Cruz soit primé, puisque effectivement par la qualité de son opération publicitaire.
Et donc dans la rencontre que vous avez eue avec Promethea, tu as l'occasion de poser la question par rapport à oui. une autre remise des prix du même genre, mais qui s'est passée en Angleterre.
Oui, alors donc en Angleterre, comme le processus est beaucoup plus avancé, on peut voir maintenant quel type de sociétés obtiennent les prix. Et l'année dernière, c'est un peu le comble du cynisme, c'est Groupe 4, donc c'est pas Sécuriste, c'est Groupe 4, qui a obtenu le prix du mécénat culturel. Alors pourquoi? Parce que, il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, il y a les prisons privées, il n'y a pas seulement les prisons privées, il y a les centres de rétention pour mineurs privés aussi, donc mineurs sans papier. Et ça, c'est Groupe 4 qui a le marché. Ils ont obtenu le prix du mécénat culturel pour avoir organisé des activités artistiques avec les enfants qu'ils gardent en prison. Alors j'ai demandé effectivement la responsable de la présidente de Promethea ici, si elle trouvait pas ça un tout petit peu choquant.
Mais oui, au premier degré, ça peut être choquant. Au deuxième, c'est leur métier de faire ça. Alors, d'un côté, ben, je réponds de nouveau à chaud parce que je connais pas le projet bien. Mais le fait de prendre en plus une part de leurs fonds propres, de leurs bénéfices ou de ce que vous voulez, pour apporter une note culturelle, une note, et le faire en termes de mécénat, c'est un plus. Mais évidemment, l'intérêt est évident. Si ça se passe mieux dans les centres à cause de ça, et s'ils gardent cette fonction-là parce que ça se passe mieux, bon, il y a un intérêt évident. Mais ils auraient pu faire autre chose. Ils auraient pu offrir 3 paquets de cigarettes par jour. Donc, le choix de le faire, de fédérer une meilleure atmosphère par la culture plutôt que par un autre incitant, c'est déjà quelque chose, quoi.
Donc voilà, ça c'est la responsabilité sociale des entreprises, c'est l'île aux enfants, voilà. Il y a même les monstres gentils qui gardent les enfants et puis il y a les artistes qui vont leur apprendre la musique ou le théâtre, tout ça. C'est vraiment un monde magnifique.
Alors toujours dans la même idée du win-win avec Arton Cruz, il y a les propriétaires de vaches, il y a la ville de Bruxelles, mais il y a aussi toute une série d'autres acteurs un peu plus... qui n'ont pas le rôle du sponsor ou du propriétaire de vaches. Et on se rend compte notamment que dans pas mal d'autres villes où des principes de co-parade ont été vendus, ce sont souvent des promoteurs immobiliers en fait qui amènent l'opération dans la ville. Ce ne sont pas les pouvoirs publics, ce sont des promoteurs immobiliers, soit pour rendre plus visible ou plus attractif un bâtiment ou un quartier qu'ils sont en train de bâtir. Et en Belgique, à Bruxelles, c'est Robelco qui a eu le rôle du parrain principal, qui a prêté ses locaux, qui a financé une partie de l'opération. Robelco, qui est notamment le propriétaire de Tour et Taxi, où s'est passée toute une partie de l'opération Vache.
Scientists are working on new and different ways to cure our ills and ease the pain of living our days.
Pour la société Robelco, de nouveau, je ne connais pas bien, je connais un petit peu le fait qu'ils aient été méga sponsors de l'opération. Donc c'est un peu difficile de dire pourquoi ils l'ont fait. D'un point de vue extérieur, c'est vrai qu'ils sont très présents en Tour et Taxi pour cause, que toutes les vaches vont revenir à Tour et Taxi, donc il y aura quand même un aspect un peu médiatique qui va se faire. Et que, vu le secteur d'activité de Robelco, d'être une des sociétés qui a permis, je dirais, ce coup de soleil d'été avec les vaches pendant 2 mois, c'est intéressant au niveau construction, implantation, crédibilité, au niveau de l'autorité locale, au niveau du grand public.
Not again.
Donc, comme je vous ai dit, Arts & Cause est un événement qui a été rendu possible grâce au partenariat de Robelco et de la ville de Bruxelles. Et le partenariat de Robelco, il a été concrétisé par un apport financier et par un apport en nature au travers de la mise à disposition du site de Tour et Taxi pour énormément d'événements, ateliers d'artistes, etc. Et l'apport financier de Robelco a été utilisé pour pouvoir offrir à la ville ces 15 vaches qui ont été décorées par différentes associations de quartier, maisons, écoles. La motivation, c'est le mécénat, pur et simple.
Alors depuis 1996, je te dis pas, Robelco a fait Ever Square, 2541 m² de bureaux, Hermes Square, 42 500 m² de bureaux, c'est à Diguem, Access Park, à Malines, 12 000 m² de bureaux, Cross Point, à Villefort, 17 000 m² de bureaux, bientôt 45 503 m² à Tour et Taxi, 30 000 m² à Arlois. Ils ont racheté les galeries Ravenstein, ils ont un bâtiment à Anvers près de la gare TGV, des contrats avec IBM, BMW, la police fédérale, l'Union Européenne.
Blankets, carpets and clothes. Oil or gas well somewhere. Trucks, trains, buses, cars.
Robelco était soutien de Tour et Taxi. Il possède Tour et Taxi. Et le fait d'avoir accueilli les vaches et permis de faire l'atelier là-bas avec les gens qui ont peint, parce que c'est une belle ambiance aussi, toutes ces gens qui peignaient ensemble leurs vaches, qui se parlaient, ça avait un côté rencontre aussi, ils se parlaient beaucoup, c'était amusant. Et Robelco a prêté ça, donc il est sponsor, donc il y a un lien. Mais il n'y a pas de lien immobilier à cette chose-là. Ce que fait Robelco, par contre, c'est créer l'intérêt sur Tour et Taxi pour un jour donner une plus-value réelle à son lieu. C'est mieux de le faire maintenant que de le faire au moment où il fait des milliers de mètres carrés de bureaux. Donc je préfère qu'il en crée un lien semi associatif et vie, donc je n'ai pas, mais ils m'ont rien demandé en parallèle avec ça, donc ça n'a pas posé de problème.
Desire. Sympathy and understanding between business associates. Desire. Lasting friendships. Desire. Harmonious family relationships. And spiritual peace of mind. Desire. And you can enjoy money, fame, desire, recognition and happiness.
Valoriser le site de Tour et Taxi, c'est donc un des objectifs de Robelco, et on peut imaginer qu'il se débrouille assez bien. On peut rappeler notamment qu'il y a un petit peu moins de 2 ans, ils avaient organisé une exposition, enfin co-organisé une exposition d'art contemporain qui s'appelait Belgian System, et dont le but n'était pas d'organiser une exposition d'art contemporain, mais était de prospecter un possible développement du site qui aurait été d'installer sur le site de Tour et Taxi un centre d'art contemporain. Les liens entre la ville et de Bruxelles et Robelco, évidemment, les vaches n'étaient pas du win-win ou du donnant-donnant, comme nous le dit Henri Simons. Il n'empêche que Henri Simons vient d'organiser la nuit blanche entièrement sur le site de Tour et Taxi, et que depuis peu est née l'idée sur le site de Tour et Taxi d'une Tour Simons.
Oui, on apprenait la semaine dernière dans le journal Le Soir que, commentant le manque de souffle du projet européen à Bruxelles, Henri Simons, l'échevin de l'urbanisme de la ville de Bruxelles, suggérait de construire sur le site de Tour et Taxi un immeuble phare d'une hauteur égale à 1,5 fois de celle de Belgacom. Une nouvelle tour géante à Bruxelles, s'interroge le journaliste. Mais que propose Henri Simons? Oh, rien n'est arrêté ou défini. Le building ferait sans doute 150 mètres de haut, occupant une surface de 70 000 à 80 000 mètres carrés. Il serait situé donc en bordure du canal. Réaliste la tour, Simons? Au cabinet du secrétaire d'État Willem Draps, aménagement du territoire, on confirme en tout cas qu'elle n'est nullement une hérésie.
Eh ben, bonne nouvelle. Et donc, on utilise beaucoup le terme de win-win, c'est un merveilleux mot marketing pour dire gagnant-gagnant. Ici, on pourrait croire en effet à une association assez gagnant-gagnant entre la ville et le promoteur immobilier.
T'as du succès dans tes affaires. T'as du succès dans tes amours, tu changes souvent de secrétaire. T'as ton bureau en haut d'une tour, d'où tu vois la ville à l'envers, d'où tu contrôles ton univers. Tu passes la moitié de ta vie en l'air entre New York et Singapour. Tu voyages toujours en première. Il tonnait de la terre, tu peux pas supporter la misère.
Mais déjà, ce qui est super étonnant, c'est que sur le site Robelco, il est dit, nous, les Robelco, on est sponsor principal de ce projet Vache parce que nous, on veut changer l'image du promoteur immobilier. Le promoteur immobilier n'est pas uniquement quelqu'un qui construit et qui déconstruit et qui investit dans la brique. Sur le côté, te démolit la moitié de la ville pour mettre tes horreurs néo-gothiques. Mais c'est quelqu'un qui a un rôle actif dans toute la vie qu'un Bruxellois peut avoir. Les loisirs, le bon temps. Donc, ils sont devenus sponsors principaux d'un truc qui s'appelle Art on Coast, avec comme arrière-pensée, on va changer l'image qu'un Bruxellois a de c'est quoi exactement un promoteur immobilier. Donc on pourrait même dire ils le font parce qu'ils veulent épaissir le voile qu'il y a dans nos perceptions de mais qu'est-ce qu'ils foutent exactement. Ça cadre dans des choses qui sont en cours depuis plus longtemps, c'est la participation des habitants dans le développement de la politique des grandes villes. Et t'as tout plein d'initiatives prises par des politiciens qui vont dans ce sens-là, qui sont en soi des initiatives qui sont prises sous pression de groupes d'habitants datant déjà des années 60, et 70 qui en avaient strictement marre de devoir gérer leur ville sans avoir aucun mot à dire ou d'être confrontés à des constructions de tours sans aucune compensation pour construire des nouveaux logements dans le quartier. Alors les dernières années, tu assistes à une espèce de retour, c'est que pour que les politiciens aient accès à des fonds de développement urbain, ils doivent inclure la participation d'habitants. Donc eux ne vont jamais dire qu'ils ont fait ça parce qu'il y a quelque chose qui est en haut d'eux qui dit qu'ils doivent le faire, sinon ils n'ont pas accès au fric. Ils présentent le truc comme étant de leur propre invention. Et c'est dans ce terrain-là qu'ils rencontrent ou qu'ils font des alliances avec des cocos comme Robelco qui disent nous on est des nouveaux, des sympas, on sait faire des événements qui plaisent aux gens. Et toute la partie de comment on gère réellement une ville, ça veut dire quoi? Une tour sur ce quartier-là, où ça veut dire quoi? Attirer des espèces de new business sur Molenbeek. Les retombées sociales de ça ne sont même pas relevées. Hein? C'est parce qu'on fait dans l'animation, la culture, l'événementiel.
L'événementiel.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que Charlier, il parlait d'un remake. Et donc, le remake, là, avec Robelco, principal sponsor d'Art on Cove, c'est un remake immobilier, la destruction de la ville des années 60-70, qui effectivement Bon, maintenant, on ne peut plus le faire exactement de la même façon. Mais ça revient, parce que dans la tête des développeurs, il y a toujours la même chose. Et alors, pour que ça puisse revenir, effectivement, il faut vendre le truc, notamment aux autorités politiques, en reprenant tout ce que je disais aussi tout à l'heure sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Là, ça, comme paravent, comme adjuvant, comme lubrifiant, vous avez les vaches, vous avez Henri Simons qui saisit la perche pour dire oui, ça crée du lien social, les gens se parlent, on ne sait pas du tout ce que ça peut bien vouloir dire. Enfin, lien social, c'est les gens qui se parlent, manifestement, c'est les gens qui se parlent. Et au moment où ils disent voilà, ça fonctionne comme ça. Et derrière, évidemment, Robelco ne se présente pas comme oui, bon, moi j'ai signé tel ou tel immeuble, etc., j'ai détruit tel ou tel endroit. Mais Robelco construit des business parks et a des ambitions sur la ville, quoi, très clairement. Et on peut aussi se dire que le concept de business parks, c'est un petit peu le dernier avatar de ce qu'on faisait dans les années 70, c'est-à-dire le concept de World Trade Center où on voulait faire une ville dans un immeuble avec des commerces et machin, des trucs, et tout en étant bien sécurisé du monde extérieur. Et là, on dirait qu'ils se sentent suffisamment forts maintenant pour construire dans la ville elle-même, c'est-à-dire horizontalement, cette espèce de cité à la Disneyland idéale qui sont entièrement centrées sur les besoins des entreprises. Et pour ça, comme les World Trade Center n'ont pas marché, il y a des agences comme Robelco et comme d'autres qui fournissent des services clés en main, qui s'occupent de la commercialisation des bureaux, qui s'occupent de leur entretien, qui s'occupent d'animer des choses pour les gens qui travaillent là, qui s'occupent de la restauration, etc. Et le concept, c'est work, live and play. C'est le concept des business parks. Et voilà, alors pour le play, cette fois-ci c'était les vaches, la prochaine fois ce sera autre chose, mais c'est vraiment un développement, un schéma de développement urbain qui risque de s'imposer, parce que j'ai vu que dans les villes au Canada c'était très répandu, et il y avait même des parties des centres-villes qui avaient été reconquis, donc des parties qui étaient pauvres de la ville, hein, comme là on parlait de Molenbeek tout à l'heure, où effectivement si on veut faire importer d'autres activités, ben voilà, il faut une société qui a le savoir-faire, qui a ses partenariats de sécurité avec une police privée, et puis voilà. Et puis alors, si on vend ça aux politiques en disant que ça fait du développement économique.
Tu parles du Canada, c'est par exemple l'exemple Toronto, Vancouver ou même Montréal, qui, dans un quartier très proche, ici à Bruxelles, très très ressemblant au quartier du Vieux-Port de Bruxelles, ben c'était le Vieux-Port de Montréal, qui a été vraiment transformé en ce que tu dis, une espèce de zone de business avec tous les services, donc work, play and je sais pas quel est le troisième.
Live
quand même.
Il faut quand même un peu vivre là-dedans.
Ouais. Et c'est vrai aussi sur le secteur des docks à Londres, et c'est pas étonnant que l'association qui s'est occupée d'importer des artistes dans les docks pour qu'ils fassent le lien avec la population a obtenu le prix du mécénat culturel d'Art and Business.
ce qui va se passer sur Bruxelles, c'est que il y a eu l'annonce que Vilvoorde, ça devrait redevenir agréable de vivre au bord du canal. Et donc, tu vois, en fait, le canal, le site Tour et Taxi, jusque Vilvoorde, tout ce qu'il y a à mettre en branle là pour un promoteur immobilier. Il y a vraiment du boulot à prendre en main. Je dirais encore un truc sur cette notion de participativité des vaches. Si ces trucs-là seraient réellement participatifs, on se l'approprierait. Je veux dire, avec ça, on ferait la vache du sans-abri, on ferait la vache des logements pour grandes familles, on ferait des trucs vraiment à nous, on parlerait des conditions de travail de Renault ou de toute firme qui sponsorise.
Voilà, c'est ça. Bon, une vache Renault, c'est un petit peu... Il y en a une, vache Renault? C'est laquelle, en fait?
Ben oui, il y en a une. C'est fait avec le fric que les ouvriers ont géré pour...
Et alors, et tout ça est tellement vicieux que Renault était quand même un des promoteurs principaux et que même Provélo s'est mis à faire la promotion des vaches, malgré ça.
Combien de bêtes qui ont été volées?
Ben, ici, dont on parle maintenant au total depuis le début, on parle au moins de 80 bêtes.
Vous pensez qu'elles souffrent?
Oh ben oui, elles souffrent, hein, il suffit de les regarder.
On a entendu un dessin, un schéma de la ville idéale pour ce genre de grande agence immobilière, la ville de l'avenir, donc centrée autour des villes ludiques, centrée autour des besoins des entreprises. Mais je pense que la firme Art & Business dont tu nous parlais tout à l'heure a aussi une vision idéale de ce que pourraient être les rapports entre l'art et le business d'ici quelques années.
Oui, ben ça c'est quelque chose d'assez amusant ou d'assez terrifiant, je ne sais pas. C'est que, bon, Art and Business, à l'occasion de ses 20 ans, a demandé à ses principaux partenaires leur vision des relations entre l'art et les affaires dans 20 ans. Hein. Donc, en 2023, donc c'est un roman d'anticipation. Accrochez-vous.
Hein. Science-fiction
Ouais, alors, nous avons, par exemple... En 2023, beaucoup parmi les entreprises les plus compétitives en Grande-Bretagne seront dirigées par des artistes ou des créateurs productifs. Les arts et l'économie auront cessé d'être des univers séparés et les arts seront célébrés par les responsables économiques, mais pas seulement eux, comme la source privilégiée de talent, d'innovation, de créativité, d'idées nouvelles. En 2023, toute entreprise d'envergure devrait être impliquée dans les arts et cela de deux façons. Premièrement, ces entreprises devront prendre conscience de l'importance des arts et de la créativité pour leur propre management interne. Leur rôle pour rendre le changement profitable et aider au développement individuel du personnel et la capacité de chacun à s'intégrer dans une équipe. Deuxièmement, ces entreprises devront soutenir les arts pour affirmer avec force leur citoyennisme et leur responsabilité sociale, reconnaissant ainsi le rôle crucial que jouent les arts afin de révéler des potentialités inexploitées et créer des communautés humaines à la fois multiculturelles et cohérente. Vous avez aussi les poètes.
Est-ce qu'on remet pas le prix de la mauvaise foi à l'entreprise par des entreprises?
Non, c'est le prix du mécénat culturel, ça s'appelle déjà, ça existe. Aussi, les poètes. Le commerce et l'art ont toujours été des amants difficiles, mais ils couchent ensemble depuis des siècles. Super. Mais en 2023, leur relation entrera dans sa maturité et prendra tout son sens. Le grand art sera en ménage avec le big business. Et tous deux seront focalisés sur la célébration des qualités intrinsèques de l'art dans toutes ses manifestations, ce qui continuera à changer la perception qu'ont les gens du monde qui les entourent pour le plus grand bénéfice de tous. Ne serait-ce pas enthousiasmant ici en 2023, l'entreprise considérait les artistes comme essentiels à la créativité commerciale, l'innovation et la compétitivité? Et si toutes les organisations artistiques se considéraient elles-mêmes comme des entreprises dépendant plutôt que des subsides de la qualité de leurs services et de la satisfaction des consommateurs. Ça, c'était le président du Parti démocratique libéral. Le plus beau, c'est sans doute quand même le président du secteur de la métallurgie qui dit « Plus de compagnies créeront et financeront leurs propres événements artistiques, fournissant les artistes et l'argent pour les aider. Les entreprises sponsoriseront leurs propres programmes d'artistes en résidence. De plus en plus d'institutions artistiques seront associées au développement des marques. » De grands artistes seront embauchés pour promouvoir les marques.
En tout cas, ça donne envie d'être en 2023.
Ah oui,
c'est vrai. Mais pourquoi 2023
hein oui. Pourquoi 2023
oui. Ah, c'est parce que c'était en 2003, c'est le 20e anniversaire de Art and Business, donc ils ont eu une idée extrêmement artistique de dire imaginez comment ce sera dans 20 ans, parce qu'on a déjà travaillé 20 ans, au bout de 40 ans qu'on aura travaillé.
Quand ils fêteront leurs 50 ans, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont. Ce sera encore plus. Enfin bon, ça.
Non, je pense que le monde meilleur sera réalisé et que.
Ils n'auront plus rien à faire.
Je tire comme conclusion, c'est de dire d'abord qu'un parcours pareil fonctionne, qu'un deuxième parcours peut donc se faire l'année prochaine, mais qu'il faut répondre aux différentes critiques. Et celle de la confusion art-économie, mais surtout celle de l'établissement du parcours dans des quartiers qui ne sont pas nécessairement de première commercialisation facile, doit être rempli par le pouvoir public. On a fait ça en partie la première année, avec des vaches associatives, avec des obligations dans certains quartiers. Il faut aller plus loin, maintenant qu'on peut réussir d'aller plus loin, vu qu'on a vu le bonheur qu'il y avait à ça. Et il faut alors, enfin, trouver un support qui ne soit pas un support d'office international, mais qui touche à la mentalité du lieu où ils arrivent. Et là, nous avons des idées pour parler bruxellois.
Je suis l'organisateur du même événement à Prague.
À Prague.
Dans quelques mois.
L'année prochaine.
C'est l'année prochaine, l'été à Prague.
L'été à Prague.
Et vous allez en exporter combien, là?
Je vis là-bas, mais il y aura à peu près aussi entre 200 et 250 vaches.
Sur le même principe.
Le même principe.
Avec des sponsors dans la
sponsors
ville aussi, des grosses
sociétés. Des heures de charité, la même chose.
Vous pensez que ça sera un grand succès?
Moi, je l'espère. En voyant ce qui s'est passé ici, je suis de plus en plus optimiste.
Je peux vous demander votre nom?
Mais Serge Borenstein.
Et vous avez une activité à Prague?
De l'immobilier.
De l'immobilier.
maintenant, je crois que j'espère que Bruxelles aura compris la leçon et que ça continuera dans ce sens-là. Quoi. Parce que je crois que c'est important. Je crois que c'est la culture et le patrimoine qui fait vivre un pays. Et moi, je crois que c'est ce qui... Il faut que ça bouge. Je crois que c'est... apparemment, ils ont l'air d'avoir compris. Ils sont sur d'autres projets, donc on verra ce qui se passera pour la suite.
Et vous pensez que vous allez réitérer avec un autre sujet dans les années à venir ?
Je crois bien, oui. On est en train de réfléchir avec les organisateurs de Arts & Cause à un autre projet, mais comme ils ont dit, ce sera pas pour l'année prochaine, parce qu'un projet comme ça, c'est mieux de ne pas le faire toutes les années, parce que alors là, la qualité va diminuer, mais je crois que dans 2 ans, on reviendra avec quelque chose de très bien.
Ils veulent remettre ça ?
Non, tu ris. Non, c'est une blague.
Non, mais c'est pas vrai.
Ah, là... Écoute, c'est pas vrai, mais ils sont totalement fous, quoi.
Il y a un mois, j'ai été à une réunion à Vienne, en Autriche, et il existe exactement la même opération, mais avec des chevaux. Donc, je ne sais pas si ça va avoir lieu un jour à Bruxelles avec des chevaux, mais ce n'est pas exclu.